Les 100 ans de la radio en France, c'est avec Radio G sur le www.radio-g.fr.
Il y a 100 ans naissait la radio, l'occasion de revenir ensemble sur les événements qui ont marqué 100 années de mode, d'invention, de musique, de médias, de cuisine. Alors bienvenue dans 100% ou 100 ans pour s'entendre, une émission réalisée par une partie de l'équipe de l'émission Tendance à me plaire sur Radio G, une émission découpée en 5 tranches de 20 années. Alors on va maintenant enchaîner avec les années entre 1960 et 1980, en évoquant bien sûr la musique pour les années yéyé, mais aussi la mode, bien typique de ces années-là. On parlera invention, mais aussi de la naissance de plein de jeux. Vous allez voir, ça va être surprenant. Allez, c'est parti avec Sonia pour la musique.
1960-1980, la musique.
Les années 60 sont les années très marquantes en musique. La musique était très écoutée par les adolescents et les jeunes adultes, qui avaient une appétence toute particulière pour le rock'n'roll européen, grâce aux émissions de radio américaines qui étaient diffusées en Europe et également au vinyle. C'est en outre à cette période que le genre se popularise et se divise en deux grandes tendances. La pop, on va retrouver donc les Beatles particulièrement, ou bien également le rock avec les Rolling Stones, les Velvet Underground. Et à cette époque, le rock rime avec scandale associé à la drogue et à la violence. Puis vers la fin des années 60 va apparaître le mouvement hippie, le flower power. Les gens prônent la paix et l'amour libre, ils veulent une vie communautaire. Et donc, effectivement, ce mouvement a pour effet d'influencer le rock qui devient alors plus psychédélique. Et c'est aussi l'avènement des festivals musicaux tels que Woodstock. Du côté de la chanson française, eh bien, on va avoir le droit à la chanson pop, les yéyés, les chansons romantiques, les chansonniers. Donc, ces années 60 jusqu'aux années 80 vont être marquées surtout par les époux Mariti, Gilbert et Carpentier, donc, qui sont les rois de la variété et qui vont tous les samedis nous servir du Johnny Hallyday, du Richard Anthony ou bien encore du Gilbert Bécaud, Aznavour, Sacha Distel, Gainsbourg, Enrico Macias. Voilà, on les retrouve tous chaque semaine. Les années 70, quant à elles, les progrès techniques étant de plus en plus complexes, l'utilisation du synthétiseur se généralise et va permettre un enrichissement, une diversification des courants musicaux. Le rock planant, tel les Pink Floyd, ou bien le disco, Donna Summer, puis la New Wave. Les années 70, c'est aussi le rap qui va arriver dans les ghettos des États-Unis. Il se caractérise par une diction très rythmée et l'usage de la rime. Et puis, surtout, et aussi, le disco, le genre musical, est une danse ayant émergé aux États-Unis dans les années 70. Et effectivement, c'est à l'origine une musique pour danser. On va privilégier le rythme et l'orchestration. Et effectivement, le public va pouvoir y danser dessus dans les discothèques. Alors, dans ces années 70, en France, eh bien, nous, on est plutôt Mike Brandt. Son succès à lui, les chanteurs, je dirais, à Minette, tels aussi Frédéric François, c'est Jérôme, ou bien encore Patrick Juvet. On va retrouver également, un peu plus dans l'émotion, du Daniel Guichard, du Michel Zonaz, également Michel Sardou arrive. Et puis, bien sûr, c'est l'avènement des duos, Stone et Chardin, Ringo et Sheila, Johnny et Sylvie. Et puis parmi les chanteuses populaires, on va retrouver Nicoletta ou bien encore Michel Thor. Voilà, toute une histoire.
Merci Sonia. Alors on espère vous donner à la maison envie de réécouter plein de titres et de danser chez vous. Allez, place maintenant à la mode des années 60 avec Caroline.
1960-1980, la mode.
Et oui, de 1960 à 1979, alors là, on a affaire à deux décennies cultes. Donc les 60s, c'est la décennie de l'audace, de l'émancipation du corps, de la femme, le début des créateurs qui vont devenir des légendes et aussi des icônes. Et évidemment, c'est la grosse révolution. La première grosse révolution, c'est quoi? C'est la création de la mini-jupe par André Courrèges et inspirée par Marie Kantz. Donc, elle était souvent portée avec des bottes plates, blanches. Elle arrive mi-cuisse. Elle devient donc tellement courte que les bas sont remplacés par des collants. Donc voilà, c'était le look 60s très yéyé à adopter absolument. En autre icône, on trouve par exemple outre-Atlantique Elizabeth Taylor, qui était très connu pour son style glamour et son look signature, un énorme trait d'eyeliner et beaucoup de bleu sur les yeux. Dans un style beaucoup plus classique, on adorait aussi les tenues en tweed Chanel de Jackie Kennedy, avec les lunettes XXL placées sous le nez. C'était très très américain. En France, c'est l'ascension des créateurs, donc Yves Saint Laurent pour sa mode androgyne, Pierre Cardin qui a fait le premier défilé prêt-à-porter, avant les défilés n'étaient qu'haute couture et donc destinés à une élite, ou encore Paco Rabanne et son Space Age, c'est un défilé inspiré par la conquête spatiale et qui a énormément inspiré le mobilier et la déco 60s. Alors en France, on pense aussi aux icônes comme Françoise Hardy, Brigitte Bardot ou Twiggy pour la version anglaise aussi, qui apporte la tendance psychédélique de ce qu'on appelait le Swinging London. Donc beaucoup de poids, de orange, du jaune, très influencé par Andy Warhol et l'art en général. Et tout ça va apporter les bases de la mode 70s du coup, avec des robes à imprimer, des pantalons pas def, des chaussures à plateforme et surtout les cuissardes. Donc on garde un look androgyne british, tout comme Jane Birkin, Janis Joplin, etc. pour faire cette mode 70s. Donc voilà, les 70s font place à une nouvelle mode, mais à d'autres revendications plus pacifistes.
Merci Caro. On continue de voyager dans les années 60 à 80 avec les inventions qui ont marqué les générations entières et révolutionné le quotidien de ces époques. On découvre ça avec Bruno.
1960-1980, les inventions.
Alors là, je vais vous parler d'une révolution. Nous sommes en 1963 et jusqu'à maintenant, pour écouter de la musique chez soi, on utilisait des disques vinyles. Pour les enregistrer, on utilisait des presses qui reproduisaient les sillons sur des disques. Alors ça demande du matériel et c'est loin d'être à la portée du grand public. Il y avait bien la bande magnétique qui est inventée en 1928, mais les grosses bobines et les imposants lecteurs à bande étaient là aussi réservés aux professionnels. Et donc, révolution, en 1963, on invente la cassette. Une bande magnétique enfermée dans une boîte en plastique normalisée avec deux trous d'engrenage au centre pour faire défiler la bande. Alors celle-ci, elle possède quatre pistes pour proposer un son stéréo différent selon qu'on insère la cassette d'un côté ou de l'autre. On pouvait avoir 45, 60, 90 et même 120 minutes de musique. Et le must, c'est qu'on pouvait nous-mêmes enregistrer avec un petit magnétophone grand public. Alors 16 ans plus tard, en 1979, Sony sort un magnétophone en version portable avec des écouteurs. C'est le fameux Walkman ou baladeur. Alors aujourd'hui, cela semble la préhistoire pour les milléniums, mais pourtant cette technologie a accompagné toute une génération. On nettoyait le galet qui entraînait la bande avec un coton-tige pour éviter que ça coince. Ou pire, que ça s'en mêle. Auquel cas, seule solution, sortir la cassette, démêler la bande et prendre un crayon et faire tourner l'engrenage pour tout rembobiner. Et imaginez aussi comment faisaient les maisons de production pour enregistrer les cassettes préenregistrées de leurs chanteurs. Alors que pour les disques, il suffisait de presser un vinyle en quelques secondes, là, il fallait des centaines de magnétophones en parallèle pour autant de cassettes qui tournaient pour enregistrer la bande. Autant dire que ça prenait beaucoup de temps pour des cassettes vendues à des millions d'exemplaires. Mais le must, c'est qu'on pouvait aussi enregistrer donc de chez nous la radio et faire nos playlists. Il fallait alors penser à casser la petite languette à l'arrière pour ne pas effacer par erreur l'enregistrement. Mais une nouvelle génération pointait déjà le bout de son nez, c'est le numérique avec le compact disque en 1982. Mais ça, c'est une autre histoire.
Merci Bruno. Alors on termine notre voyage dans les années yéyé avec Karine qui va nous parler des innovations dans le monde du bien-être et des loisirs notamment.
1960-1980, l'art de vivre.
Alors, dans le côté bien-être, le phénomène hippie, l'ouverture à d'autres cultures, un besoin d'émancipation, la recherche de nouvelles perceptions sensorielles et d'états de conscience modifiés les amenèrent en fait à des expressions artistiques de psychédélisme. Dans leur communauté, ils espéraient vivre librement dans des rapports humains qu'ils voulaient plus authentiques, en rupture avec les normes des générations précédentes. Le mouvement a une influence culturelle majeure, en particulier dans le domaine musical. Donc la diffusion d'une partie de ces valeurs issues de ce courant a accéléré l'évolution des mœurs de la société occidentale dans son ensemble, même si le mouvement lui-même a perdu progressivement son ampleur. Alors on trouve aussi dans cette tranche de décennies les voyages, un élément précurseur au développement des loisirs et surtout du voyage dans les années 60, grâce aux congés payés, à l'expansion des moyens de transport, l'amélioration du niveau de vie ainsi que les médias. Qui dit voyage dit évasion, donc je fais l'arrivée de l'ordinateur. Si je vous dis un système de traitement de l'information programmable, vous me dites ordinateur. Eh bien, c'est le français Jacques Perret, latiniste et philologue, qui a proposé ce mot à IBM, au moment où l'entreprise s'apprêtait à commercialiser une nouvelle machine, l'IBM 650. Jeu indémodable, souvenez-vous, en 1974, ce casse-tête géométrique à 3 dimensions est composé de 26 cubes extérieurs de différentes couleurs.
Rubik's
toujours indémodable, exactement, Bruno. Son nom d'origine, tu le connais?
Ah non.
Le Magic Cube, donc inventé par un sculpteur et professeur d'architecture hongrois qui s'intéresse à la géométrie et à l'étude des formes en 3D. Donc c'est bel et bien le Rubik's Cube. Alors petite astuce pour le réussir le plus rapidement possible, faire une croix et finir la première face sauf un coin.
Eh ben avec ça, beaucoup content.
C'est pour la première phase. Et en 79, le Trivial poursuit le célèbre jeu de culture générale. Alors, une des théories de l'origine du nom du jeu, tout le monde connaît le Trivial poursuit, ce jeu de société où chaque joueur voit sa culture générale testée dans différents domaines au gré des lancers de dés. Mais c'est aussi un jeu de mots puisque Trivial poursuit en anglais veut dire quête futile, ce qui qualifie parfaitement cette bataille d'ego qui est le Trivial poursuit.
Merci Karine, merci à vous chers auditeurs de nous suivre toute cette semaine à l'occasion des 100 ans de la radio. On se retrouve demain, même heure, même endroit. On passe de 60 à 80% en évoquant les années 80 à 2000. Vous suffit toujours aller retrouver toutes les chroniques en podcast sur radio-g.fr. À très vite.
Les 100 ans de la radio en France, c'est avec Radio G sur le www.radio-g.fr.
Radio G 101.5.